Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Nous avons tous, toutes, des peurs, mais est-ce que ce sont les bonnes peurs? Sous-entendu, est-ce que nous pouvons faire confiance à notre mental? Et ça, c'est une question qui est profonde, intéressante, et pour laquelle je reçois Albert Moukeiber, qui est un docteur en neurosciences et un psychologue. On avait déjà fait un épisode ensemble sur l'écologie et sur les raisons pour lesquelles on la mettait à distance. Aujourd'hui, on va se concentrer sur nos peurs, sur notre manière de fonctionner, la manière dont notre cerveau fonctionne. Moi, je trouve ça toujours passionnant, pardon de réutiliser ce mot à chaque fois, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti.
Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Albert.
Bonjour.
Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. Et cette fois-ci, on va parler des peurs. Et en particulier de la rationalité des peurs. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir peur des choses qui ne sont pas nécessairement les plus risquées et à l'inverse, ne pas avoir peur de choses qui sont extrêmement risquées. Je pense que l'exemple le plus connu, c'est sans doute la peur des requins dans la mer, alors qu'en fait, il y a très très peu de gens qui se font tuer par des requins et en même temps, des gens qui conduisent un peu n'importe comment sur la route sans se rendre compte qu'en fait, potentiellement, ils risquent leur vie tous les jours. Comment on explique cette peur qui est décorrélée de la réalité?
En fait, c'est pas une question juste de peur, c'est plutôt une question d'évaluation du risque. On est relativement assez mauvais à évaluer les risques en général, pour plusieurs raisons. On n'est pas ce qu'on appelle des homo economicus, on ne mesure pas les choses de manière objective, on mesure les choses plutôt de manière relative. Notre cerveau souvent fonctionne de manière comparative. Et du coup, plusieurs filtres viennent à s'intégrer dans un peu les équations d'évaluation de risque qu'on fait dans notre cerveau. Il y a un chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et j'ai donné l'exemple des requins, mais lui, il donne l'exemple des avions et des voitures, par exemple. Tout le monde se souvient du 11 septembre, des attaques du 11 septembre sur le World Trade Center. Et après le 11 septembre, il y a eu une sorte de chute drastique de vols d'Américains qui utilisent des avions pour voyager entre, par exemple, je sais pas, tu allais de New York à Washington, les gens disaient non, je vais pas prendre l'avion parce qu'il y a eu un attentat terroriste, je vais prendre ma voiture. Et ça a causé beaucoup plus de morts, d'accidents de la route, alors que, par exemple, l'avion est beaucoup plus safe, je sais pas comment dire, beaucoup plus
sécurisé. En tout cas,
beaucoup plus sécurisé. En tout cas, il y a beaucoup moins de risques de prendre l'avion que de prendre la voiture. Mais d'ailleurs, Gigerenzer, il dit genre, il pose cette question que je trouve très cool. Il dit combien est-ce que vous pensez que vous devez conduire de kilomètres en voiture pour que les risques soient les mêmes que pour prendre un avion? Genre, combien de tours? Il y a des kilomètres, je sais pas. Et les gens, quand il fait ça dans ses conférences, les gens donnent des 1000 kilomètres, 5000 kilomètres, deux fois le tour de la planète, etc. Et sa réponse, c'est genre 10-12 kilomètres, en fait, le trajet pour aller de chez vous à l'aéroport. Ouais. Parce qu'une fois que c'est à l'aéroport, vous êtes là en sécurité. Parce que c'est beaucoup plus sécurisé, comme on disait. En tout cas, c'est beaucoup moins de risque de prendre l'avion que de prendre la voiture. Et ça, c'est par exemple, dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un biais de récence. Il y a eu l'attentat dans un avion. Donc, on se dit on va éviter l'avion parce que c'est ce dont on se souvient. Et du coup, il y a plein de facteurs comme ça qui viennent biaiser la manière dont on évalue le risque. Ça peut être des biais de récence, ça peut être des biais de proximité. Combien est-ce que je suis proche d'une maladie ou d'une cause? Ça peut être combien est-ce que ça s'est passé dans le temps? Combien de personnes peuvent mourir? Par exemple, je sais pas, sans rentrer dans le débat de l'énergie nucléaire versus les énergies fossiles, mais on a beaucoup plus peur d'un réacteur nucléaire qui a un problème et tue beaucoup de gens vite que des milliers de morts qui meurent lentement de la pollution due à la production d'énergie fossile. Et dans ce cas-là, c'est parce que s'il y a beaucoup de gens qui meurent d'une même raison, mais de manière étalée, on le voit moins que, par exemple, s'il y a beaucoup de gens qui meurent d'un coup ensemble. Même si la cause qui est en train de tuer beaucoup de gens de manière étalée peut être beaucoup plus létale en valeur absolue que quelque chose qui tue beaucoup de gens d'un coup. C'est pour ça qu'on est, par exemple, dans l'expérience qu'il décrit Guy Grainzer sur les avions et tout ça, il explique qu'après le 11 septembre, on a changé tellement de lois, on a mis des scanners dans les aéroports, on a même changé certaines libertés fondamentales, etc., etc., pour quelque chose qui a tué beaucoup de gens d'un coup, donc les attentats terroristes, mais on n'a pas du tout ces mêmes réactions d'urgence sur des choses qui tuent beaucoup plus de gens, mais de manière beaucoup plus étalée, comme je sais pas, le réchauffement climatique ou la clope ou les maladies cardiovasculaires.
Complètement. Et est-ce qu'il y a un rapport entre nos deux cerveaux, c'est-à-dire le cerveau qu'on a dans notre tête et puis le cerveau qu'on a dans notre ventre, c'est-à-dire entre le rapport émotionnel et le rapport rationnel? Est-ce que ça peut avoir un impact? Parce que j'ai la sensation que l'émotionnel prend le pas parfois sur le rationnel.
Alors, je vais reformuler un peu la question, parce que une des choses sur lesquelles je me bats, c'est de ne plus séparer la rationalité et l'émotionnalité.
N'hésite pas.
Une sorte de division un peu stéréotypique. Je travaille sur un texte sur le sujet, donc je suis en plein dedans. En fait, nos émotions sont comme une boussole pour notre rationalité. C'est juste que quand on pense à émotions, on pense à certains types d'émotions qui, effectivement, peuvent biaiser ce qu'on considère notre rationalité dans ce cas-là, sans définir le mot rationalité, c'est-à-dire d'arriver à un risque absolu au lieu d'être tout le temps dans un risque relatif. Et effectivement, il y a certaines émotions, comme la peur, comme la récence, comme la quantité, comme machin, qui peuvent nous impacter, mais on a besoin de nos émotions pour aussi être rationnel. Ça dépend juste de quelle émotion est-ce que j'utilise. Il y a des expériences sur des personnes qui ont ce qu'on appelle de l'alexithymie, c'est-à-dire une incapacité à ressentir des émotions ou à détecter les émotions chez les autres. Ils sont pas du tout rationnels, parce qu'ils ont plus de boussole. Donc, si par exemple, imagine que tu n'as pas d'émotion, je te dis ce truc que si tu le fais, tu vas mourir, tu n'as pas l'émotion de la peur qui va te dire non, ne le fais pas. Donc, tu ne vas pas non plus être plus rationnel. Du coup, la question devient quelles émotions modulent notre raisonnement, de quelle manière? Et effectivement, par exemple, les peurs irrationnelles ou les biais de science ou de récence, c'est-à-dire quelque chose qui se passe récemment, nous module beaucoup plus que quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, alors qu'il est peut-être plus dangereux ou bien de proximité.
D'accord.
Je vais avoir beaucoup moins peur d'Ebola si je viens en France que si je vis dans une partie du monde où il y a Ebola. Et dans ce cas-là, effectivement, certaines de nos émotions peuvent venir impacter négativement, j'ai envie de dire, notre capacité à évaluer le risque de manière qui soit appropriée au risque réel. Mais il y a d'autres émotions qui, au contraire, vont nous aider. Et c'est souvent pas les émotions qu'on croit. Par exemple, pour donner un exemple, un des biais les plus communs qui biaise négativement l'évaluation du risque, c'est le biais d'optimisme. On peut en parler maintenant avec l'épidémie dans laquelle on est. Je vais me dire, ouais, mais ça va, c'est mon pote, il a sûrement pas Covid, donc je me protège pas et mon optimisme peut me jouer ce tour. Ou bien les accidents de voiture qui se produisent souvent à côté de la maison, j'arrive dans mon quartier et du coup j'enlève ma ceinture de sécurité en me disant c'est bon, je suis optimiste, il va plus rien se passer, c'est là où il y a des accidents. Alors que le pessimisme peut des fois être au contraire une émotion qui peut nous protéger, c'est-à-dire en me disant j'ai peur d'avoir Covid, je vais peut-être prendre des précautions plus adaptées et du coup avoir moins de chances d'avoir le virus. Du coup, ça dépend vraiment dans quel contexte Parce que aussi, il y a des fois où il faut pas surévaluer le risque, et c'est là où on développe une sorte de trouble anxieux. Si je suis tout le temps en train de me dire, ah, bah, je vais pas sortir de chez moi, parce que si je sors de chez moi, il y a peut-être une voiture qui va m'écraser, ben, ça va être très compliqué à vivre. Et du coup, il faut tout le temps se demander, replacer ça dans un contexte. Quelle émotion face à quel stimuli, une peur du noir, c'est pas la même chose qu'une peur d'un lion, alors que je suis dans une forêt où il y a plein de lions.
Évidemment. Et alors, quand je parle des peurs, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Parce qu'il y a, en ce moment, beaucoup de gens qui se disent, mais j'ai envie de changer de métier, ça n'a pas de sens. En particulier, après cette année passée chez soi et je crois qui a fait des mouvements psychologiques chez un certain nombre de personnes. Il y a aussi cette peur de se dire, mais est-ce que vraiment je peux changer de métier? Est-ce que ça, c'est des peurs qui sont rationnelles? Non, pardon. Alors, du coup, je vais pas utiliser ce mot rationnel.
Non, on peut utiliser le mot rationnel. C'est juste, il faut pas l'opposer au mot émotion. C'est juste que nos émotions sont utiles à notre rationalité. En fait, on peut pas être rationnel sans émotion. C'est tout. C'est juste, la question, c'est quand on dit émotion, il faut spécifier de quelle émotion est-ce que je parle.
D'accord. OK. Très bien. Par exemple, ouais, quand je veux changer de métier ou, alors que effectivement, on prend des risques qui sont beaucoup plus importants. Et typiquement, tu parlais de la cigarette, les gens qui fument et qui se disent, tu vois bien, jusqu'ici tout va bien, donc je vois pas pourquoi je mourrais. C'est comme si ça ne pouvait pas te concerner en fait quelque part.
Oui, ça arrive juste aux autres. Étrange. C'est ça le biais un peu, cet optimisme. Je pense que ça arrive juste aux autres, quoi.
Très étrange, parce que la clope, on sait bien que statistiquement, ça tue. Il n'y a pas de sujet. Et pourtant, les gens qui fument, a priori, ils n'en ont pas peur, ou en tout cas, ce n'est pas un élément suffisamment apeurant pour qu'ils arrêtent.
Ouais, je pense qu'on a parlé de ça la dernière fois que j'étais là, si je me souviens bien. C'est en fait, on parlait à l'époque du réchauffement climatique, c'est un peu la même chose, c'est que c'est tellement délayé dans le temps qu'on n'y pense pas. Et je pense que l'exemple que j'avais donné, c'est-à-dire si quelqu'un fume une clope, et imagine que tu fumes une clope et je te dis, genre, une heure plus tard, tu as 1% de chance d'avoir un cancer, je pense que les gens ne fumeraient pas. Mais te dire, tu as, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais disons, je ne sais pas, 5, 10%, 20, je ne sais plus c'est combien. On va inventer un chiffre, donc ce que je dis n'est pas vrai, mais c'est juste pour illustrer. Disons que c'est 10%, je te dis, tu as 10% d'avoir un cancer dans 20 ans, bah, ça semble ne pas vraiment impacter. Je pense que ça, ça joue aussi un rôle dans le changement de carrière, dans le sens où c'est instantané quand je change. Quand je démissionne, et mon salaire, ça s'arrête le lendemain. Après, ça dépend comment je démissionne, mais genre, je vais avoir une sorte de perte instantanée. Et aussi, il faut pas oublier qu'on a ce qu'on appelle des choix par défaut. On a souvent tendance à surestimer le danger d'une situation nouvelle, ce qui fait que mécaniquement, on préfère rester sur ce qu'on a que aller sur quelque chose d'autre. Après, quand est-ce qu'on change? C'est quand ce qu'on a devient plus dérangeant que le risque potentiel de où on veut aller. Et ça appelle aussi des théories de dissonance cognitive, etc. Si par exemple, moi, je sais pas, je suis quelqu'un qui est profondément anticapitaliste et je bosse dans une banque, au bout d'un moment, dans une banque d'affaires ou dans une banque d'investissement, au bout d'un moment, la dissonance interne que je ressens va forcer un changement. Ce changement pourrait être soit je deviens moins anticapitaliste, soit je me dis, je peux être anticapitaliste, mon métier ne me définit pas et je continue à faire mon métier, donc je change le sens, soit je change mon action et je quitte mon boulot et je fais autre chose. Il y a plusieurs manières de résoudre ces dissonances cognitives, et selon nos évaluations du risque, selon nos émotions, selon notre rationalité, on peut soit changer l'action, du coup je quitte mon boulot, soit changer le sens, du coup je me dis ça va, mon boulot c'est pas ça qui me définit, soit changer mon opinion et me dire c'est pour les ados quoi, l'anticapitalisme, là il faut que je mûrisse un peu et que je devienne de droite.
Effectivement. J'ai entendu sur le podcast Hidden Brain une expérience clinique que j'avais trouvé hyper intéressante sur un test, donc sur cette rationalité, sur cette capacité à se tromper dans le risque, potentiellement en tout cas. Et c'était l'idée, c'était de dire combien tu es prêt à payer, on te donne 20 euros, et combien tu es prêt à payer à, pour ne pas perdre les 20 euros, sachant que si tu donnes 1 euro, par exemple, tu as X% de chance de le perdre, et si tu donnes Y euros, tu as 0 de chance de perdre. Donc en fait, tu te rends compte que généralement, pour 20 euros, les gens sont pas prêts à prendre beaucoup de risques. Par contre, s'il s'agit d'une décharge électrique, les résultats sont très différents. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont quasiment prêts à payer plus que 20 euros pour ne pas se prendre la décharge électrique, en fait. C'est très étonnant. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair quoi, dans la manière dont j'explique.
Oui, je connais l'expérience.
Peut-être que tu peux mieux l'expliquer que moi, d'ailleurs. Mais...
en gros, il montre que perdre 20 euros, les gens sont prêts à beaucoup moins payer, mais une décharge électrique, les gens qui ont 1% de chance d'avoir une décharge électrique et les gens qui ont 90%, en gros, il y a deux groupes et on leur dit « Combien est-ce que vous êtes prêts à payer ?» Pour un groupe, vous avez 1% de chance de perdre vos 20 euros. Pour un autre groupe, vous avez 90% de chance de perdre vos 20 euros. Et le groupe qui a 1% de chance, très rationnellement, est prêt à payer beaucoup moins que le groupe qui a 90% de chance, en sachant que plus tu payes et moins tu réduis cette chance. Mais quand on passe à la décharge électrique, ils remarquent que les gens qui ont 1% de chance d'avoir une décharge électrique sont prêts à payer quasiment autant que les gens qui ont 90% de chance à payer une décharge à avoir une décharge électrique. Et ça, je pense que c'est aussi la nature de dans ce cas-là un peu de la punition, c'est-à-dire une punition qui touche à l'intégrité de notre corps va impacter la manière dont on genre l'action qu'on est prêt à mettre en œuvre pour l'éviter, surtout qu'une décharge électrique dans notre représentation, c'est quelque chose qui est qui fait très mal, qui est instantané, etc. Et on revient à cette notion de temporalité, de est-ce que la punition va être rapide et je dois payer très vite, ou est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus étalé dans le temps, étalonné, et du coup je peux me défaire de ça. Mais effectivement, on est en général genre moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait donner des cours d'évaluation du risque, même à l'adolescence, dans les écoles. Genre, par exemple, une autre expérience sur combien on est nul à évaluer le risque, c'est si je te dis, je sais pas, il y a un médicament qui fait du mal, qui cause, je sais pas, qui cause une maladie grave, et il y a un nouveau médicament qui réduit ça de 100%, donc qui divise par moitié, mais qui coûte 100 euros plus cher. La majorité des gens vont dire « Ok, ben, moi je vais aller acheter le nouveau parce que j'ai envie de réduire de 100% quand même des chances. » Ça, c'est par exemple un risque relatif, mais derrière, il faut demander « Mais c'est combien ?» Parce que par exemple, imagine que le premier médicament, sur 100 000 personnes, il touche 2 personnes, et sur le nouveau médicament, sur 100 000 personnes, il touche une personne, ben ça c'est le double, ça a été divisé par le double, et c'est 100% moins. Mais ça va changer complètement, et les gens vont dire, ben non, si c'est 1 sur 1000, 1 sur 100 000 ou 2 sur 100 000, je ne vais pas payer 100 euros de plus pour réduire mes chances de une personne. Et là, on revient à cette notion de risque relatif et de risque absolu. Donc, et là, on est dans un biais qu'on appelle la négligence du taux de base, c'est-à-dire quel est le taux de base sur lequel je suis en train de questionner. Et ces choses sont souvent utilisées aussi dans le marketing, pas juste dans l'évaluation du risque.
C'est ce que je voulais dire.
Dans des sondages et tout ça, deux fois plus efficace. Mais si c'était efficace à 1% et maintenant c'est efficace à 2%,
c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est utilisé dans l'autre sens, dans le marketing, en particulier pour ce qui concerne la technologie, c'est-à-dire qu'on te dit que c'est deux fois plus, j'en sais rien, deux fois plus rapide, ou deux fois, t'as deux fois plus, tu prends un écran 8K, c'est deux fois mieux que 4K, et en même temps, ça a été prouvé que ton œil n'est pas capable de faire la différence.
Voilà,
alors, je sais pas, entre 4K et 8K, mais dans l'absolu, il y a plein de choses où ça dépasse la perception humaine.
Le rafraîchissement Apple sont super sur ça, genre sur les pixels et tout, et il y a longtemps qu'on ne voit plus les pixels sur nos écrans, mais ils continuent à dire résolution plus haute, résolution plus haute, résolution plus haute, alors que deux fois la résolution, 8 fois la résolution, 16 fois la résolution, et c'est pour ça qu'il faut tout le temps demander par rapport à quoi, genre si par exemple, je sais pas, demain il y a 40% de chance d'avoir un accident de voiture, mais 40% de chance par rapport à quoi, par rapport à aujourd'hui, par rapport à un absolu, par rapport à la semaine, par rapport aux autres, par rapport à ma conduite à moi, en général, par rapport à la moyenne des personnes qui habitent à Paris, par rapport à la moyenne des personnes qui conduisent dans le monde. Et c'est la même chose sur les statistiques, de tout le temps demander. Et c'est la même chose aussi avec les moyennes. C'est-à-dire les moyennes, je ne sais pas, un groupe où il y a des personnes, je ne sais pas, une classe qui a une moyenne de 10, ça peut être parce que la majorité des élèves ont entre 8 et 12 sur 20, mais ça peut être aussi une moyenne qui a une classe qui a une moyenne de 10, ça peut être parce que la majorité des étudiants ont eu 1 sur 20 et 19 sur 20, et du coup, la moyenne est de 10 à peu près. Et c'est pour ça que c'est très important dans les sondages, là on va arriver à une phase électorale et tout ça, de tout le temps questionner c'est quoi la médiane, pas juste la moyenne, et c'est des concepts qu'on apprend à l'école mais qu'on oublie très vite alors qu'ils sont très très important, la moyenne, la médiane, parce qu'une moyenne sans médiane, ça ne veut rien dire. Des sondages avec des barres d'erreur, par exemple, je sais pas, le candidat X a 52% des intentions de vote et le candidat Y ou la candidate Y a 48%. Mais c'est quoi les barres d'erreur? Parce que si les barres d'erreur de vos sondages sont de 5 points, bah, en fait, il n'y a pas de différence. Ils ont la même chance de gagner.
Tu pourrais expliquer médiane et médiane et moyenne?
Ouais, donc justement, la moyenne, c'est... j'additionne tous les chiffres et je les divise par le nombre de participants, j'ai la moyenne, mais la médiane, c'est un peu l'écart entre ces différentes personnes. C'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple des classes, une classe qui a une moyenne de 10 et une médiane de, par exemple, donc un écart type, ça va être plus simple pour expliquer que d'expliquer la moyenne, un écart type de 1,5 points, c'est-à-dire la majorité des élèves sont à 1,5 points de la moyenne. Donc, ils ont entre 11,5 et 8,5. Alors qu'une autre classe qui a une moyenne de 10, mais l'écart type est de 5 points ou de 6 points, ça veut dire que oui, la moyenne est de 10, mais la majorité des étudiants ont soit 16, soit 4. Et du coup, ça change tout, parce que si moi je suis prof, par exemple, et on me dit, bah, oh Albert, ta classe a une moyenne de 12, donc tu es un bon prof, bah, si j'ai un écart type de 6 points, non, je suis un prof complètement pourri, parce que il y a des étudiants qui sont complètement à la ramasse, et des étudiants qui sont en train de très bien comprendre, et il y a un problème dans ce cas-là. C'est la même chose dans les sondages, c'est pour ça que c'est tout le temps important, quand on voit un sondage, une évaluation du risque, etc., de demander quel est le nombre d'échantillons, est-ce que j'ai posé à assez de gens la question, et quelles sont les barres d'erreur, parce qu'encore une fois, souvent dire les sondages ça marche pas, bah, ça dépend des barres d'erreur, et beaucoup de fois, parce que les sondages surtout en politique sont demandés par les équipes des candidats, ils s'arrangent pour ne pas les mettre, et du coup ça veut plus rien dire, parce que donc c'est le même concept que l'écart type, un peu les barres d'erreur. Si moi j'ai si je reprends le même exemple, un candidat a des intentions de vote, on va dire, de 55-45, et les barres d'erreur sont plus de 5 points, c'est-à-dire le spread est tellement grand, ça veut dire que les deux peuvent être à 50-50. Et du coup, ça, c'est des fois utilisé pour dire, ah, bah, c'est dans la poche, du coup, les gens vont peut-être être moins motivés à voter, ou à se dire, ah, c'est serré, donc faites attention, il faut faire, il faut se mobiliser, sinon ce candidat risque de passer, ou cette candidate risque de passer, donc il faut aller tous voter, parce que c'est très, très proche. Du coup, et c'est très proche des évaluations de risque. On n'est pas de bon en statistique en général, quoi.
Il y a eu pas mal, tu parlais tout à l'heure du Covid, il y a eu pas mal de débats. J'ai vu des chercheurs ou des chercheuses en l'occurrence se battre avec des présentateurs télé sur justement les moyennes en ce qui concernait les cas de Covid en France, et où ils disaient bah, ça baisse, alors qu'en fait elle disait bah, non, en fait c'est pas en train de baisser, là vous arrivez pas à lire, et en fait il la contredisait complètement, alors qu'en fait de manière très évidente c'est elle qui avait raison, enfin je veux dire c'est son métier et...
Parce que, encore une fois, on n'est pas très très bon à évaluer les chiffres, surtout dans des conditions épidémiologiques, etc. Et puis, il y a plein de manières de présenter des données pour les faire dire ce qu'on veut. Par exemple, je sais pas, imagine qu'il y a un graphe qui montre les cas de Covid. Je peux mettre sur les ordonnées, donc sur le côté à gauche, des graduations qui sont 10, 20, 30, 40, 50. Et si j'ai une chute de genre 50 cas, ça va faire genre une sorte de descente de ouf. Alors que si je fais une graduation de 500, 1000, 1500, 2000, bah la descente va être complètement minime. Du coup, quelqu'un va dire ça augmente pas. Et puis, ça dépend de comment je compte. Est-ce que je compte les tests positifs PCR? Est-ce que je compte le nombre d'hospitalisations? Est-ce que je compte le nombre de passages aux soins? Est-ce que je suis en train de compter, par exemple, quand on veut évaluer la gravité de Covid, est-ce que je compte juste les personnes qui sont mortes et les gens disent « Ah ouais, mais Covid, c'est 1%, c'est comme une petite grippe, etc. » Mais est-ce qu'il y a juste mourir? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions de vie? Qu'est-ce qu'on fait des Covid lents? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont des troubles qui touchent, par exemple, la psychologie, le cerveau, le système nerveux central, etc., etc. Et toutes ces choses conditionnent la manière dont on évalue le risque. Quelles sont les politiques qu'on accepte, les politiques publiques qu'on accepte, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est très important, c'est pour ça que c'est très important de justement avoir des personnes qui savent comment manier ces choses pour pouvoir présenter l'information de la manière la plus complète, parce qu'on ne peut pas vraiment être objectif selon comment on priorise ce qu'on priorise, mais en tout cas de la manière la plus complète, les données qui nous sont disponibles, surtout que maintenant avec Covid, on parle de R, on parle de progression exponentielle, etc., etc. Et ce sont des mots que pas beaucoup de gens maîtrisent, mais que tout le monde s'est approprié. Et effectivement, beaucoup de fois, les journalistes vont disputer une personne qui est experte, qui fait ça depuis beaucoup plus longtemps que Covid. Et effectivement, je ne serais pas surpris si c'est eux qui finissent par avoir tort. Quoi.
Évidemment.
Est-ce qu'ils vont l'admettre?
Ça, c'est une autre question. Et effectivement, quand il s'agit d'une chercheuse et de présentateurs hommes, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins prêts à l'admettre que quand c'est l'inverse. Ouais. Mais bon.
Il y a eu un cas très particulier, similaire aussi avec une chercheuse qui était, je pense, chez Pascal Praud sur le réchauffement climatique, où là aussi, on voit le sexisme dans toute son horrible gloire.
Ouais, exactement. Dans ton école, sur la prise de risque, qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Donc, on devrait apprendre ces sortes de moyennes et de médianes. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'autre sur le risque pour qu'on puisse, pour qu'on puisse mieux prendre des risques ou en tout cas savoir les juguler? Donc, il y a cette histoire de temps aussi. Tu parlais tout à l'heure de la distance, du temps, etc.
La récence, le risque relatif versus le risque absolu. Comment choisir quel critère de risque? Encore une fois, est-ce que je veux juste, par exemple pour Covid, évaluer le risque de mourir? Ou est-ce que je suis en train d'évaluer la qualité de vie? Les risques psychosociaux? Les risques sur la dynamique interpersonnelle? Quels sont les risques du confinement? Comment est-ce que je compare le confinement versus le non-confinement? Du coup, le taux de base? L'échantillonnage? Comment je pose une question conditionne la réponse que je vais avoir? Du coup, comment est-ce que je peux poser une même question de plusieurs manières? La temporalité, sur combien de temps est-ce que je suis en train d'évaluer un risque? Les trucs alternatifs, comment est-ce que je compare plusieurs options pour un même risque? Qu'est-ce que je voudrais faire? Et surtout, le type de danger. Qu'est-ce que je risque de perdre? Il y a aussi l'aversion au risque. Je n'ai pas envie de prendre des risques, donc je suis dans une aversion au risque. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre?
Il y a cette phrase très connue qui dit « Si vous avez peur de l'aventure, essayez la routine, elle est mortelle. » Tu vois, qui est intéressante justement sur cette aversion au risque.
Oui, bien sûr. Mais aussi, des fois, la routine est quelque chose qui nous aide à fonctionner. Du coup, quand est-ce que la routine est quelque chose qui est bien et le risque est mortel? Parce qu'au final, aussi, la peur, par exemple, c'est un signal pour ne pas mourir. Du coup, ma routine est mortelle, donc je vais aller conduire maintenant sans ceinture de sécurité à 160 km/h sur le périph. C'est un peu plus mortel que ma routine. Donc là aussi, de comment savoir... Quand est-ce que je suis en train de chercher de la nouveauté juste pour la nouveauté et je suis en train de prendre un risque démesuré? Parce qu'on a tendance à croire qu'on a juste une aversion au risque. En gros, on préfère jamais prendre de risque. Mais des fois, c'est presque une bonne chose. Genre, la peur est un signal très, très important pour nous dire quand est-ce qu'on s'arrête. Et d'ailleurs, d'un point de vue neuroanatomique, la structure qui est supposée évaluer, enfin certaines structures qui sont impliquées dans les circuits d'évaluation du risque ne sont pas encore complètement développées à l'adolescence, et c'est pour ça que une grande partie des comportements à risque, on les trouve souvent chez les 15-25 ans, on va dire. C'est pour ça qu'on voit rarement des personnes qui ont 36, 37, 40, 50 ans aller cracher, aller, je sais pas, genre sur une colonne de CRS et essayer de sauter dessus, qui découvrent des sports extrêmes de base jumping, ou qui vont aller genre conduire comme des oufs. C'est parce que les structures d'évaluation du risque aussi ne sont pas encore complètement formées. Ce qui est aussi une très bonne chose, parce que du coup, il y a beaucoup d'innovations aussi qui viennent des jeunes, parce qu'ils ne sont pas dans un mode de « ça, c'est pas possible ». Ils disent « on va essayer ». Et du coup, ça peut avoir ces deux facettes. D'un côté, une sorte d'innovation parce qu'ils cassent la routine, parce qu'ils n'évaluent pas le risque de la même manière que des personnes plus âgées. Mais de l'autre aussi, ils font tout et n'importe quoi des fois, ce qui peut mettre en danger leur vie ou la vie d'autrui. Et c'est pour ça que je reviens à cette notion d'apprendre l'évaluation du risque à partir de l'école et continuer à l'âge adulte, parce que, encore une fois, c'est des choses qui sont importantes à s'approprier, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on décide un peu à notre place des risques en disant bah, on s'est mis derrière des portes et on a décidé, et voilà, ça c'est plus dangereux que ça. Et après, derrière, on va avoir des personnes qui vont venir prendre ça en otage et dire non, ils vous disent n'importe quoi, et on se retrouve dans une polarisation un peu malsaine, sans que personne ne prenne le temps d'apprendre vraiment l'évaluation de chez SOZ de manière explicite.
Je ne savais pas du tout, mais je veux bien que tu en parles un petit peu, du fait que cette aversion, enfin cette capacité à juguler le risque, elle venait si tard dans le développement de l'être humain. C'est incroyable.
Ouais. En tout cas, évidemment qu'il y a une genre, c'est pas que les jeunes ne savent pas comment évaluer le risque du tout, c'est juste que certaines structures, en tout cas certains chercheurs, propose cette notion, que certaines structures ne sont pas encore développées, ce qui peut expliquer que, encore une fois, une grande partie des sports extrêmes, des manifestations, etc., se font souvent plus par des jeunes que par des personnes plus vieilles.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut penser des personnes plus vieilles qui prennent des risques? Par exemple, je pense, tu vois, des gens qui font du surf dans des vagues immenses, c'est parce qu'ils ont une maîtrise du sujet, ou alors
souvent, ils ont appris plus jeune. Après, il y a tout le temps les outliers, genre l'exception qui confirme la règle d'une personne qui décide d'aller apprendre à surfer à 45 ans. Bien sûr que ça existe, mais la majorité des personnes, je sais pas, Tony Hawk, quand il fait 900 degrés, un tour de 900 degrés sur son skate en l'air, c'est parce qu'il a commencé quand il était beaucoup plus jeune.
Bien sûr, c'est clair. C'était une idole quand j'étais jeune, donc c'est pour dire à quel point il a commencé jeune.
Moi aussi. Là. Mais là, allez, moi et toi, allez apprendre à faire du skate maintenant pour faire un 900. Je pense que
900, ça va être compliqué. Déjà 360.
Ouais, voilà, ça va être compliqué. Et même moi, je le sens en moi. Genre, quand j'étais plus jeune, j'adorais aller dans les parcs d'attractions, faire les grands 8 et tout ça, etc. Machin. Et là, récemment, j'étais aux Tuileries, il y avait le truc là qui tourne, il y avait les manèges il y a quelques mois. Je pense même avant, je sais plus si c'était, il y avait l'épidémie ou avant l'épidémie, mes souvenirs sont pas très bons. J'étais genre non, je montrais pas là-dedans. Genre non.
C'est hyper intéressant, comme avec l'âge, on perd cette capacité. Et en même temps, c'est ce qui est intéressant. Et pour revenir, parce qu'en fait, on parle de pas prendre des risques inconsidérés, mais dans l'autre sens, il y a aussi effectivement de savoir prendre des risques ou de prendre des décisions, tu vois. Typiquement, on parlait Covid, on parlait un peu écologie aussi, ou pollution. Ces risques-là, ils sont pas mis parce que effectivement le Covid ça tue tout de suite, donc on le voit très nettement passer, tandis que la pollution ça tue à long terme, donc on le voit pas vraiment passer. Comment on fait du coup pour avoir une idée claire sur ces risques-là, même si en l'occurrence il n'y a pas besoin d'opposer l'un et l'autre? Comment on peut juguler des risques plus long terme versus des risques plus court terme?
C'est là où on rentre dans le domaine, je pense, de la politique. On a besoin de faire des politiques qui sont adaptées à ces choses, parce que mettre la responsabilité sur l'individu, c'est assez compliqué. Et on a besoin de faire de la politique de pédagogie, et on le voit, par exemple, récemment, on a vu, par exemple, le nombre de personnes qui fument diminuer. Et donc, quelque part, on est en train de faire des choses qui marchent des fois, et c'est important de le dire. Parce que, encore une fois, on ne peut pas juste se baser sur l'individu qui doit lui-même essayer d'évaluer ces choses. Et donc, on a besoin d'avoir des politiques publiques sur la santé, sur l'évaluation du risque, sur la pédagogie, qui mettent en avant autant les dangers à long terme, mais surtout, avoir la volonté derrière de les prendre en charge quand on sait. Je pense que tu sais maintenant que pour moi, genre, tout est tout le temps aussi politique et intégré dans des décisions subjectives et idéologiques. On voit très bien qu'il y a aussi des considérations économiques à prendre en compte qui peuvent aussi expliquer. Et c'est pas juste la question du risque long terme et court terme. On voit maintenant une sorte de déplacement des investissements vers des énergies plus propres, juste parce que ça commence à avoir un sens d'un point de vue économique, alors que beaucoup d'industries ont nié ces risques pendant longtemps. On l'a vu aussi autour de l'industrie du sucre, on l'a vu autour de l'industrie du tabac. Et du coup, il faut tout le temps intégrer ça dans ces considérations-là.
Ouais, bien
sûr. C'est pas juste des considérations psychologiques, quoi.
Et, ok, non, mais du coup, t'as raison, effectivement, je pense que le politique joue un rôle majeur en fait dans les risques qu'on prend en tant que société, en tout cas, typiquement, les sujets auxquels je faisais référence, dont on parle tous les deux, c'est vraiment en fait en fonction de la décision politique qu'on va aller vers ou pas ce risque-là, effectivement. Est-ce qu'il y a une chose que les personnes doivent absolument retenir qu'on n'aurait pas couverte sur la prise de risque ? C'est possible. Hein.
De ne pas se faire confiance sur l'évaluation du risque. D'essayer tout le temps de vérifier. Genre, notre intuition sur le risque, je pense que c'est là où elle pêche le plus. On est vraiment mauvais tant qu'on n'apprend pas de manière vraiment explicite, voire presque académique, comment fonctionne le risque. Et du coup, de ne pas se faire confiance parce que, encore une fois, par exemple, sur Covid, les personnes qui ont des proches qui ont été touchés par Covid réagissent complètement différemment des personnes qui ne connaissent personne qui a été touché par Covid. Et du coup, je ne peux pas me faire confiance à moi-même. Je dois tout le temps essayer de voir comment est-ce que je pourrais essayer de m'éloigner de ce risque relatif. Du coup, les 100%, le double, tout ça, mm-hmm. et de m'approcher de ce risque absolu et de prendre en compte pas seulement un seul critère de risque, questionner quels sont les autres critères. Par exemple, si on reprend comment on a commencé entre l'avion et la voiture, c'est pas juste le nombre de morts, mais par exemple, oui, s'il y a un accident d'avion, tout le monde meurt, mais les accidents de voiture, je peux avoir des fractures, des trucs qui sont débilitantes, genre perdre un œil, perdre un tendon, etc., etc. Et du coup, de tout le temps essayer d'étoffer nos critères et la manière dont on les mesure, et de ne pas s'arrêter sur une mesure unique du risque.
Et si on prend le côté positif, il y a aussi, par exemple, tout à l'heure, je parlais de changer de métier, il y a le risque de se retrouver au chômage et effectivement d'être dans une difficulté économique à un moment donné. Mais de l'autre côté, il y a aussi le risque de s'ennuyer de manière assez ferme dans son travail, donc de pas s'épanouir. Donc il y a aussi ça.
Oui, le risque est des fois un moteur et des fois un frein. Et toute la question, c'est comment est-ce que je les ménage. Et ça dépend souvent du contexte. Si je reprends l'exemple de l'optimiste, je veux changer de métier, c'est très bien d'être optimiste et de me dire je vais me lancer et ça va aller, etc. Et dans ce cas-là, l'optimisme me pousse à la prise de risque et c'est quelque chose qui est très bien. Mais, par exemple, je peux être optimiste et aller dans un casino, je commence à perdre et je me dis mais non, je vais gagner la fois d'après, je vais gagner la fois d'après, je vais gagner la fois d'après et je me retrouve complètement fauché à la fin de la soirée. Du coup, c'est un peu cette notion de tout le temps contextualiser nos biais, contextualiser nos traits pour pouvoir au mieux les adapter à la situation qui est devant nous.
Super. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Avant d'ouvrir et claquer la porte, j'ai oublié un truc que j'ai dit tout à l'heure sur les cerveaux des ados, sur le risque. Il y a aussi une hypothèse concurrente que les ados prennent du risque aussi pour essayer d'accélérer leur apprentissage. Donc c'est juste pour être complet, que c'est pas juste la seule hypothèse. L'hypothèse que c'est juste un truc de cerveau a aussi des gens qui sont pas complètement d'accord, qui disent le contraire. Et j'avais oublié de le mentionner, donc j'essaye d'être un peu plus complet. Donc je me corrige.
Merci.
Sur ce point. Et à quoi je voudrais ouvrir la porte, à quoi je voudrais claquer la porte. Je voudrais claquer la porte j'essaye de trouver le mot en français, les vendeurs de peur. Où on est tout le temps genre regardez tout ce que vous allez perdre, genre on va avoir notre identité qui est perdue, on va avoir notre truc qui est perdu. Quand on met trop en avant la perte, ça augmente énormément notre sensibilité au risque et ça peut nous ankyloser dans une sorte d'entre-soi qui est pas tout le temps très bon. Et du coup, évaluer le risque, oui, mais que ça soit tout le temps sur le registre de la peur, je voudrais claquer la porte dessus et faire blanc. Ouvrir la porte, je veux tout le temps ouvrir la porte au même truc, au doute de soi. moins se faire confiance, plus se faire confiance les uns aux autres. On délègue tellement de choses. Je délègue la personne ou les ingénieurs qui ont créé mon ordi. Je délègue le micro avec lequel les personnes qui ont créé le micro avec lequel je parle. On délègue les personnes qui nous créent nos habits, qui ont construit l'immeuble dans lequel je vis, etc., etc. Mais pour une raison ou une autre, on veut chacun penser par soi-même. Et ce serait pas mal de déléguer aussi, des fois, notre genre le pense par toi-même, c'est très risqué.
Ouais,
justement.
Sûr.
Et c'est pas une bonne chose. On peut aussi déléguer nos évaluations du risque et de ne pas être encore et toujours dans cette notion de je veux tout savoir moi. Et du coup, je voudrais bien ouvrir la porte à un peu plus de doute de soi et un peu plus de confiance aux autres. On n'a pas le temps ou la capacité d'être très bien informé sur tout. Et du coup, pour faire ça, avoir plus de cours sur l'évaluation du risque, sur comment fonctionne tout ça et sur l'importance de savoir comment se faire confiance.
Et c'est vrai que c'est un point important parce que j'ai la sensation qu'en ce moment, peut-être lié aux réseaux sociaux, je ne sais pas très bien, mais j'ai l'impression que tout le monde a un avis sur tout.
Ouais.
Alors que concrètement, évidemment...
c'est très explicite de penser par soi-même. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, pense par toi-même. Mais genre, je ne construis pas ma maison par moi-même, je ne construis pas ma voiture par moi-même, je ne construis pas... Je ne fais pas les verres avec lesquels je bois du thé par moi-même, je fais rien de tout ça par moi-même. On délègue, on est des animaux sociaux et je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas à nos opinions. Penser par soi-même, c'est limite juste se demander en qui est-ce que j'ai confiance et à qui je voudrais déléguer. Penser par soi-même, croire que je vais tout comprendre moi, c'est assez absurde et je m'expose à tellement de risques.
C'est vrai.
Que je vois pas.
Merci beaucoup.
Merci Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !